Eh bien, bonjour Saint-Quentin. Alors, vous me connaissez probablement pas. Donc, je vais commencer par me présenter, présenter la petite famille qui s'en va d'ailleurs à tout à l'heure ici. Alors, je m'appelle Victor, j'ai 30 ans et je viens de rejoindre l'équipe d'implantation de Reims, dont Yannick Huguenin est le pilote. Et en fait, avant ça, j'ai changé du coup de métier, on va dire. Avant ça, j'étais ingénieur en informatique pour le Crédit Mutuel. Et ça a duré 8 ans. Et j'ai changé, du coup, j'ai rejoint l'équipe d'implantation en septembre. Donc, c'est tout récent pour moi. Constance, qui est partie avec les filles, est la fille de Laurent Martinache. Je crois que vous le connaissez, il est déjà venu parmi vous pour si vous apportez l'un de votre message, il me semble. Non, ça ne vous dit rien ? D'accord, ok. Bon, je me suis trompé alors. à Reims, dans la plantation, on a fait de grandes avancées ces derniers temps, je dirais. Et je voulais vous montrer quelques petites photos. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler du fait qu'on avait trouvé un local. Je ne sais pas où ce que vous en êtes dans les nouvelles. Le local ressemblait à ça il n'y a encore pas si longtemps. Et maintenant, il ressemble plutôt à ça. C'est quand même plus chaleureux, plus accueillant. Et puis, il y a du chauffage, comme ici d'ailleurs. On a bien chaud et depuis pas très longtemps. Donc, on est vraiment contents. Ensuite, on a pu finir la cuisine et l'espace pour les enfants. Donc, les enfants sont bien accueillis. Et puis, on peut bien y manger puisque ce local... accueille aussi le feu, le foyer évangélique universitaire piloté par Jonathan Comte. Donc les jeunes se retrouvent là. Et alors, il y a autant pour les groupes de jeunes que pour le feu, énormément de jeunes. Hein. Pour le feu, il y a une trentaine d'étudiants qui fréquentent très régulièrement le feu et qui, en ce moment, est en train, alors pas en ce moment-là, ce dimanche matin, le mercredi plutôt, se retrouvent pour étudier Romains. On a pu lire Romains 12, alors je me disais, ça vaut le coup d'en parler. Voilà une petite photo de quelques personnes. Ce n'est pas l'ensemble de l'église, mais on tient une bonne partie, le noyau dur, je dirais, puisque Yannick discerne qu'on en est tout doucement à la naissance de l'église. On passe tout doucement du stade d'implantation à stade d'église naissante. C'est un long processus, mais disons que c'est un peu là où on se trouve actuellement. Et j'aimerais vous présenter les deux derniers baptisés de notre petite communauté. Vous avez à droite Logan et à gauche Alexis qui s'est fait baptiser hier. On a pu fêter ce grand événement. Et Alexis a un réseau énorme. Il a invité 100 personnes. Il y avait plus de 100 personnes à son baptême. Donc on a dû louer une salle des fêtes et le baptiser dans un jacuzzi, enfin un jacuzzi gonflable. C'était assez comique, mais ça a beaucoup plu et il y avait une très très bonne ambiance. Si vous voulez emmener avec vous un sujet de prière qui me tient particulièrement à cœur, c'est nos deux baptisés, Logan et Alexis, qui avancent dans la foi, qui réfléchissent aussi à comment Dieu les appelle à servir dans l'Église, plus largement aussi. Voilà, donc on peut prier pour eux. Et ce qu'il est bon de savoir sur Alexis et Logan, c'est que Logan aime bien les chips qui sont au goût miel-moutarde et Alexis préfère les poulets braisés. Je ne sais pas si vous avez un avis sur leur choix, mais retenez bien ça, on va en avoir besoin pendant notre étude de texte ce matin. Alors en fait... je vais vous emmener avec moi dans une étude qu'on a fait à l'atelier, à l'église évangélique, l'atelier de Reims. Dans l'implantation, on essaye de développer un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, elles se nomment les valeurs CHIPS. C'est facile à retenir, c'est un petit acronyme qui a son sens. La première lettre, ça veut dire compassion. Comme Christ a eu compassion de nous, nous voulons avoir compassion des Rémois qui nous entourent. Nous voulons être hospitaliers, c'est le H. Nous voulons les intégrer et nous intégrer aussi dans la ville. Ça, c'est le I. Et enfin, le P de participatif. On veut que nos temps communautaires soient participatifs, que chacun puisse interagir avec les autres et s'édifier ensemble, mutuellement. Mais alors, si on mange des chips, on aime bien en manger plusieurs en général. En tout cas, en croquer une appelle à manger l'autre. Et donc, il manque le S. Et c'est ce que je voudrais travailler un petit peu avec vous ce matin. C'est le service. Le service. Avant d'aller plus loin, je vous invite juste encore à prier avec moi. Notre Père, nous avons chanté ce matin que ta parole est la lumière devant nous, c'est aussi le fondement de ce en quoi on veut croire. On veut l'étudier, on veut la comprendre, et on veut y répondre, et on veut que nos corps soient des sacrifices vivants qui vivent ta parole. Alors, aide-nous à la comprendre ce matin, aide-nous à l'entendre, l'intégrer et à la pratiquer. Amen. Alors, le service dans la société, c'est quelque chose parfois un peu vague. Et à la lumière de la Bible, qu'est-ce qu'on peut en dire? Si on devait courtement rechercher quelques passages bibliques qui parlent de justice sociale, j'en ai fait une petite sélection et on va les lire ensemble et on va essayer de voir peut-être qu'est-ce qu'en disent ces textes avant de se plonger dans la parabole du bon samaritain ensemble, juste après. Genèse 1, versets 27 à 31. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines pour la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et constata que c'était très bon. Alors, je suppose que je ne vous apprends rien. On en est au tout début de la Bible. Si un jour vous avez entrepris de lire la Bible dans son ensemble, peut-être vous êtes déjà passé par Genèse. On peut constater, particulièrement dans ce passage, je mets en lumière particulièrement, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il ne peut pas y avoir d'autres idoles que l'humain, d'autres images de Dieu. En fait, l'humain est déjà la représentation de Dieu. C'est l'humain qui est le gérant de la terre, qui doit cultiver le jardin et prendre soin de la vie pour qu'elle se développe. Ça, c'est un premier point assez important dans notre compréhension de ce qu'est la justice sociale. Nous sommes des gérants temporaires de ce que Dieu nous a donné. Ensuite, Genèse 9, verset 6, on peut lire « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. » C'est une tournure de phrase qu'on peut comprendre de la manière suivante. On ne peut opprimer les humains. On ne peut verser de sang, c'est-à-dire verser la vie, empêcher à la vie de se développer. Ce serait nier l'humain et ce serait nier l'une des plus belles créations de Dieu. Ensuite, Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, et que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors, ce passage de Michée est assez important, en tout cas je voulais le souligner, parce qu'il a inspiré tout un mouvement mondial pour la justice sociale. Ce verset nous invite à aimer la justice et marcher humblement avec Dieu. Je pourrais encore citer d'autres passages Je ne l'ai pas affiché là, mais je lis juste Matthieu 23, 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, et que vous laissez ce qui est de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. C'est une critique de Jésus envers les spécialistes de la loi qui sont censés bien connaître l'appétence de Dieu pour une juste gestion du monde et des humains. Il les critique, il les traite de mensongers et il les accuse d'avoir laissé aux oubliettes la justice. Alors, ces quelques passages nous donnent une petite idée de ce que le service dans la société, le S des valeurs chips, peut impliquer. Maintenant, je vous propose qu'on se plonge dans un texte qui est assez représentatif quand on parle de justice sociale, et c'est dans Luc 10. Je ne l'affiche pas, je vous laisse chercher tranquillement dans vos Bibles. Luc 10, on lira les versets 25 à 37, et souvent on appelle ce passage la parabole du bon samaritain. On va lire ce texte dans l'évangile de Luc, du coup. J'aimerais apporter une petite quelque chose qu'on peut garder en tête pendant que nous lisons. Luc a une appétence particulière pour les gens qui sont négligés, entre guillemets, les rebuts de la société, les gens, les petites gens, ceux que la société hébraïque de l'époque ne considérait pas. On se trouve dans notre texte juste après que Jésus se soit mis en route vers Jérusalem. Il arrivera à Jérusalem au chapitre 19, sera crucifié au chapitre 23 et ressuscité au chapitre 24. Et nous savons aussi que Luc a une deuxième œuvre à son actif, c'est les actes des apôtres. Et donc, Luc veut nous montrer comment Jésus va vers Jérusalem, et une fois que la bonne nouvelle de sa crucifixion et résurrection est actée, la bonne nouvelle doit se répandre, et ça, on le voit dans Actes. Mais nous, maintenant, nous allons nous concentrer sur le verset 25 à 30, sur les versets 25 à 37 du chapitre 10. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Ah, ces sacrés professeurs de la loi, ils ont toujours de bonnes intentions, n'est-ce pas? On peut dire qu'ils sont, ce sont des petits mesquins qui ont le don de mettre les deux pieds dans le plat de chips. Pourquoi la question de ce professeur de la loi est intéressante à votre avis? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? On pourrait la poser autrement, on pourrait dire « Comment je peux gagner mon salut ?» Peut-être, vous connaissez des gens qui ont cette même question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bon moyen d'être en paix avec Dieu? Peut-être en moyennant un peu d'argent? La réponse est dans la loi. La loi qu'il est d'ailleurs censé connaître sur le bout des doigts. Deutéronome 6, versets 5 à 9. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec tout ton cœur et toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Autant dire qu'on a affaire ici à un amour de Dieu qui englobe toutes les dimensions de l'existence humaine. C'est un amour holistique, complet. Et puis, notre professeur de la loi cite aussi Lévitique 19-18, « Tu ne te vengeras pas ou tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Effectivement, il a bien répondu. On ne peut pas profondément aimer Dieu et ne pas aimer son image, son ambassadeur, les humains. Bon, du coup, vu que notre petit enseignant de la loi modèle a donné sa réponse, elle est bonne, bon, qu'est-ce qui manque? Ah oui, il faut l'appliquer. Ouais, mais oui, mais là, c'est là que ça coince, justement. Comment s'en sortir? Parce que moi, si j'ai posé la question, il ne faut pas que je perde la face, hein. C'est un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel est notre pharisien. Allez-y, une petite entourloupe. Il pose une question piège à Jésus. C'est qui mon prochain? Sous-entendu à Jésus, ben, c'est qui mon prochain gros malin? Et là, ce qu'il ne sait pas, ce professeur de la loi, c'est que Jésus lui prépare un beau retournement de situation. Un renversement comme il les aime. Chez certains jeunes que je côtoie, ils diraient un beau flip the table. D'abord, Jésus lui parle d'un prêtre, puis un lévite, son témoin d'une situation où un humain, une créature de Dieu, est brisé par la vie. Ah, ça dérange, hein, c'est vraiment pas cool. Les gars, c'est l'élite de la nation juive. C'est les gens qui peuvent servir dans le temple, qui peuvent voir des choses incroyables et être dans la présence de Dieu. Et ils passent leur chemin. Alors franchement, en termes de valeur chips, on est... Vous mettriez quoi comme note à ces gens-là? Zéro pointé. Pourquoi ils ont fait ça? Alors on va essayer de redorer un petit peu leur blason si vous voulez bien. Pourquoi ils font ça à votre avis? J'ai besoin de votre aide. On va essayer un peu de... quand même... Ce prêtre et ce lévite, pourquoi ils auraient pu passer à côté?
Ils ont peur.
Ils ont peur. Ce serait une bonne raison, avoir peur. Avoir peur, par exemple, d'un guet-apens. Ah, si j'ai peur, peut-être c'est légitime de passer à côté, non? Une autre raison?
Ils s'en fichent.
Oui, alors ça, c'est pas une bonne raison. Mais oui, effectivement, c'est probablement le cas. C'est probablement ce que veut montrer Jésus. Alors, essayons de trouver peut-être une bonne raison pour eux, quand même.
Ils ne pouvaient pas s'humilier, puisque les Samaritains avaient une mauvaise réputation.
Exactement. Mais oui, les Samaritains. Alors, le blessé n'est pas Samaritain.
Ouais.
Mais on va y revenir sur le Samaritain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il s'occupe de ce blessé, qui a priori est dans un état d'impureté inconséquent, il saigne, il faut le soigner, et bien ça les aurait aussi rendus impurs. Donc, ils n'auraient pas pu exercer leur travail dans le temple. Ça pourrait être une bonne raison.
Ils sont pressés d'aller servir.
Ils sont peut-être pressés d'aller servir, effectivement. Vous avez vu le temps que ça coûte de s'occuper de se blesser. Effectivement, Voilà. Bon, il y a quelques bonnes raisons et peut-être vous en imaginez encore d'autres. Mais ce n'est pas trop la vie de Jésus. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il veut nous enseigner. Après ce prêtre et ce lévite vient donc un samaritain. Ah, franchement, ça, Jésus, c'est vraiment pas cool. Un samaritain, on l'a dit, pour les juifs, les samaritains sont pires que des étrangers. C'est vraiment pas ce à qui on s'attendait. Les juifs auraient préféré un bon juif bien de chez eux, quelqu'un qui respecte la Torah à la lettre, qui donne la dîme de la menthe et de la nette. Non, c'est un samaritain. Les samaritains ne sont pas appréciés des juifs parce qu'ils ont été, entre guillemets, colonisés, noyautés par la Syrie en 730. Et du coup, ils pratiquent une religion mixte. Ils ont des lieux de culte différents, ils ont un mixte de dieux, ils adorent plusieurs dieux. C'est pas tout à fait clair, c'est des situations compliquées. Et pourtant, dans la parabole, c'est a priori celui qui va nous enseigner quelque chose. Si on revient dans notre temps, est-ce qu'on connaît parfois des bons samaritains? Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une situation des faits divers d'il y a maintenant quelques temps, hein, quand même. Hein. Je vous remets un petit peu dans le contexte. C'est la photo d'un Malien sans papier qui vient sauver un bébé qui était suspendu au quatrième étage d'un immeuble. Alors on se demande comment le bébé est arrivé là, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut retenir de ce fait divers, c'est qu'il y a ce Malien qui grimpe 4 étages en un temps record. J'ai pas la vidéo à vous montrer, mais c'est super rapide. Il remet l'enfant en sécurité et il redescend. Quand les journalistes l'interrogent, qu'est-ce qu'il répond? Il dit qu'il a pris des risques, c'est vrai, en essayant de sauver ce bébé, mais il a entendu des cris, il a vu du monde, il y est allé. Alors le problème, après, pour nos politiques et pour la presse, c'était qu'il était sans papier. Ça dérange, ça. Bah oui, un étranger hors la loi, qui plus est, qui donne une leçon d'amour et de don de soi au service de la France entière, ah, ça dérange. Alors continuons quand même notre texte. On y reviendra tout à l'heure. Au verset 33, qu'est-ce qu'on apprend sur notre bon samaritain? Concentrons-nous sur ce bon samaritain. Quelles sont ses caractéristiques? Verset 33, on voit qu'il est pris de compassion. Au verset 34, il prend soin des besoins physiques. Il lui donne sa place sur sa mule et le loge en sécurité. Au verset 35, il veille la nuit, il le veille, il prend soin de lui même la nuit, il le prend en charge, et il prend en charge même son avenir, il paye en avance l'aubergiste. Franchement, ça, c'est du service 3 étoiles. Hein. Il n'a pas juste ramassé un gars sur le trottoir, il lui a offert le gîte, l'a soigné, l'a pris en charge, et a pris en charge son avenir. Donc, bilan, c'est Jésus qui demande, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme? Et c'est là, c'est le coup de grâce pour notre professeur de la loi. Il ne prononce même pas le mot samaritain. Il dit, c'est celui qui a eu compassion. On sent que c'est rude pour lui, c'est vraiment c'est compliqué. Jésus n'a pas fini en plus. Vas-y, fais de même. C'est rude pour lui, c'est vraiment, vraiment rude. En fait, notre docteur de la loi pose la mauvaise question. Il se fait remonter les bretelles par Jésus de manière tellement douce, mais vraiment claire. Il aurait dû répondre, après la citation de la loi, « Oui, c'est vrai, j'avoue, je n'arrive pas à aimer Dieu. Je n'arrive pas à aimer mon prochain comme la loi le demande. » Mais au lieu de ça, il monte sur ses grands chevaux et cherche à défendre sa place d'héritier d'Abraham. Mais dans cette histoire, le vrai héritier, c'est pas le bon juif qui prie, qui donne sa dîme, qui respecte le sabbat. Non, non, non. Dans cette histoire, le véritable enfant de Dieu, à qui la vie éternelle appartient, c'est le bon samaritain. Et ça nous laisse un premier enseignement. Le signe d'appartenance au royaume de Dieu n'est pas une pureté rituelle impeccable, mais c'est une vie transformée par l'amour. Aujourd'hui, ce n'est pas notre lecture rythmée de tous les jours, nos prières de beaux gosses qui font de toi, de moi, un homme ou une femme appartenant au royaume de Dieu. Mais c'est l'effet de ces lectures, de comment elles pénètrent notre cœur. Comment l'amour se développe dans nos vies. Ça appartient au royaume de Dieu. C'est une véritable relation avec Dieu. C'est d'une véritable relation avec Dieu que l'on tire l'amour nécessaire pour aimer nos prochains. C'est cet amour actif, cet amour au service de la société qui marque la différence, qui donne du goût aux chips pluriels. Alors, ce malien sans papier qui a sauvé ce bébé s'appelle Mamadou Gassama. Et suite à son geste de bravoure, il a été régularisé. Il a rencontré le président de la République. Ça, c'est classe quand même, hein ? Alors, il ne s'agit vraiment pas de faire de la politique ici, ce n'est pas du tout mon but. Je cite cet exemple car il est criant de symbolisme dans notre contexte ici. Là. Ce malien, Mamadou, a protégé la vie. Il a fait ce qu'on attend d'un brave Français. Alors, si la vie d'un Français a de la valeur à ses yeux, ok, bienvenue en France. Si tu protèges l'image de Dieu, si tu aimes la vie et que tu viens en aide à celui qui en a besoin dans ton quotidien, alors oui, tu portes les valeurs du royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. À l'atelier, nous voulons avoir un cœur aimant, tourné vers les blessures, les problèmes, les luttes. Je reviens en arrière. Nous voulons avoir un cœur aimant, tourné vers les blessures, les problèmes, les luttes de nos concitoyens. Nous voulons aimer les blessés de la vie. Et c'est probablement votre cas aussi. Parfois, il faut être une épaule pour pleurer. Parfois, on veut être une oreille pour écouter. Parfois, il faut des mains et un dos pour aider à déménager. Parfois, il faut pouvoir donner du sang. Parfois, il faut un foyer chaleureux. On peut ouvrir pour restaurer, penser, permettre de se reposer. Jésus ne nous demande pas ici d'aider tout le monde. Il nous demande de ne pas réfléchir de manière égoïste. Il nous demande de réfléchir à notre conception du prochain. Il nous demande de vivre l'amour en action, d'être cette église assaisonnée de sel. On veut être ces chips qui donnent du goût, peut-être moutarde pour les braisés, il y en a même qui mangent des goûts fromage. S'il y a autant de saveurs de chips, alors pourquoi l'église n'aurait-elle pas des goûts multiples et tout aussi appétissants ? Alors, vous vous dites peut-être, bon Victor, t'es gentil, merci. Franchement, c'est sympa ce que tu dis, mais sérieusement, on va pas aller ramasser tous les gens que l'on croise dans la rue quand même. Ça me paraît compliqué. Et oui, c'est vrai. On pourrait faire un raccourci, on doit aimer au point d'aider toutes les personnes qu'on croise dans la rue. Le verset 37 nous dit « Va et agis de même ». Mais on a affaire ici à une action spontanée, remplie d'amour de la part du Samaritain. Mais que se passerait-il si la même situation se reproduisait 1 kilomètre plus loin ? Ou même 5 kilomètres plus loin ? Bah ouais, comment il ferait ? Il n'allait pas veiller des centaines et des centaines de blessés de la vie ? On a affaire ici à une action spontanée. Mais parfois, nous sommes, nous, face à des situations à répétition. On peut avoir un sentiment d'impuissance. Finalement, qu'est-ce que je peux faire qui peut changer quelque chose dans ce monde ? L'État propose déjà d'innombrables services. Qu'est-ce que j'apporte réellement de plus ? On peut se dire aussi, je suis parfois trop petit pour lutter contre les problèmes de ce monde. Ça m'écrase. lorsque les problématiques de justice sociale deviennent systémiques, que ça fait partie du système. Il convient alors de se questionner et de recourir à l'écriture pour se forger ce qu'on appelle une éthique sociale. Si on reprend, on se remémore les passages qu'on a lus tout à l'heure, de Genèse 1, de Genèse 9, le verset de Michée aussi. Si on prend en compte ces passages que nous avons lus, ils doivent nous guider, nous inspirer. Voilà un autre enseignement qui peut nous être inspiré aussi par ce texte de Luc. La terre a été donnée à tous les humains. Elle n'a pas été donnée que aux plus riches ou que aux plus pauvres. Non, elle a été donnée à tous. Nous n'avons pas pour objectif de seul remplir la terre. Nous le faisons ensemble. Nous avons un mandat dans lequel nous voulons rentrer, développer la vie dans le cadre prévu par Dieu, la vraie vie. Le monde que Dieu a créé laisse de la place, même aux plus petits d'entre nous. Si on prend Luc 10, du verset 25 à 37, alors encore plus, on peut voir que l'amour agit, il n'attend pas. Aujourd'hui, nous avons pour mission de commencer à vivre selon les principes du royaume de Dieu qui est à venir. Nous devons regarder, analyser et faire le pas pour se rapprocher de l'idéal à venir. Par exemple, nous voulons garantir que les puissants n'oppriment pas les plus faibles. Cela est une expression de l'amour pour notre société. Cela peut se vivre au quotidien, au travail, peut-être dans ton engagement politique et social. Nous croyons que l'humain a été créé à l'image de Dieu, alors nous n'avons pas le droit de le sous-estimer, de le rejeter, de le rabaisser. La violence ne devrait pas en être. Et cela, ça peut se vivre au quotidien, au travail, peut-être dans ton engagement politique ou social. Nous pensons que chacun doit pouvoir vivre normalement, se vêtir, se nourrir, se laver. Eh bien alors, inventons une société où chacun à sa place ne possède ni trop peu, ni trop, ni trop peu. Et cela, ça peut se vivre au quotidien, au travail, peut-être dans ton engagement politique et social. Ça y est, je mets la citation de Daniel Lyon. Daniel Lyon est responsable des relations pour le CEL, le service d'entraide et de liaison. Voilà, voici ce qu'il dit. Il faut partir de là où on est et faire le pas suivant dans la bonne direction. Sans utopie, mais sans jamais renoncer à essayer de suivre le Christ et à pratiquer la justice comme lui est juste. Enfin, la transformation la plus profonde et la plus durable qui soit est le changement du cœur. Celui qui cherche la justice sociale ferait bien de ne pas négliger l'évangélisation. Mais oui, en fait, c'était sous notre nez, dans notre texte, depuis le début. Est-ce que vous l'avez vu? Mais oui, le monde va mal, et je me sens tout petit. Mais au-delà de notre énergie, de notre politique, de notre justice, de notre manière de gérer les actions sociales, nous avons quelque chose de bien plus grand à offrir à notre monde. Nous avons Jésus-Christ. En fait, c'était ça la clé de notre texte. Rembobinons un petit coup. Vous vous rappelez les caractéristiques du bon samaritain? Verset 33, il est pris de compassion. Verset 34, il prend soin des besoins physiques et il donne sa place sur sa mule. Il loge en sécurité. Verset 35, il veille toute la nuit, il prend en charge même la nuit. Et même l'avenir, sa dette est complètement payé. C'était sous notre nez. Vous l'avez vu? Ce fameux amour par excellence, cette parfaite épaule pour pleurer, ce sel goûtu et plein de saveurs incroyables, cet hôte parfait, ce bon samaritain ultime, c'est Jésus-Christ. Goûtez et voyez comme Jésus-Christ est bon. Il est encore meilleur que les chips miel moutarde ou poulet braisé. Alors, notre dernière valeur, chips, finalement, qui vient donner un goût pluriel à notre beau paquet, a été définie par l'atelier de la manière suivante. Le service, on le définit comme, on veut le faire avec générosité, les apprentis de Jésus veulent agir dans la société. Ce ne sont pas les moyens qui comptent, mais l'investissement spontané et bien orienté. Nous voulons aimer de manière active. Transpirer la bonté, transpirer l'évangile pour rendre gloire à notre Dieu. Comme Jésus-Christ, nous voulons annoncer le roi en étant amour. Et je termine ainsi.